En attendant de pouvoir démarrer cette série, ce sera début de l'année prochaine, je pense. J'avais parlé de la rencontre du Massif Central il y a quelques semaines de cela, et le sujet apporté par Bob était le discernement. Je voulais en parler un petit peu, quand c'est mon tour d'apporter la méditation. Mais bon, on va jamais y arriver parce que ça se retarde, et on a prévu également d'autres choses pour les moments d'introduction de culte. Voilà, je vais faire un message qui est inspiré donc de l'enseignement que Bob a apporté aux rencontres du Massif Central au mois d'octobre 2024. Donc. Voici la définition du mot discernement. Et donc, ce sera la première partie qui s'appelle nourrir le discernement, nourrir notre discernement. Comment nourrir notre discernement? Donc, le discernement, c'est quoi? C'est l'action de discerner, de distinguer, de discriminer. Discerner le vrai du faux. C'est la faculté d'apprécier sainement les choses. L'intelligence, le sens christique, avec l'expression « agissez avec plus de discernement ». Ça, c'est la définition du Larousse. Alors, est-ce que nous avons besoin de discernement? Si on interroge la culture ambiante, elle nous répondrait « Bon, à quoi sert le discernement puisque finalement, il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité. La vérité n'est pas une, n'est pas unique. Donc, à quoi sert le discernement ?» Et l'idée, si on pousse le raisonnement, on voit que l'idée même qu'il puisse y avoir le discernement de la vérité pose problème. Car s'il y a une vérité, c'est quelque chose qui va se placer au-dessus de moi. Et donc, la vérité étant au-dessus de moi, étant quelque chose qui s'impose à moi, ça va pas. Ça ne correspond pas avec notre culture. Parce que dans notre culture, tout le monde doit être d'accord sur un point. La personne la plus importante, c'est moi-même. Et on essaye de fonctionner en considérant que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Et quand le discernement arrive, cela met du désordre là-dedans. Et donc, notre culture ambiante n'a pas besoin de discernement. Mais pour le chrétien, c'est autre chose. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et là, quand on est chrétien, on est attaché à la vérité. Et l'apôtre Jean parle très bien de cela dans sa première lettre, cette tension qu'il y a entre nous et la vérité. Et l'apôtre Paul, il se battait dans ses lettres, dans ses courriers, dans toute sa vie, pour maintenir la vérité parmi les chrétiens, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'ils s'introduisent. Et dans ses lettres, il parle de loups cruels, il dénonce des super apôtres, des prétendus apôtres, il dénonce des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, des prédicateurs de mensonges. Ils apportent un enseignement perverti, des spéculations folles et stupides, des paroles douces et flatteuses qui trompent le cœur des gens simples. Alors oui, l'Église de Jésus a besoin de discernement. Elle a toujours eu besoin de discernement. Et ce matin, on va voir ensemble comment, de façon très simple, acquérir, nourrir, un bon discernement, que nous puissions discerner l'apôtre Paul nous y invite dans toutes ses lettres. Alors, on va avoir trois points. Lire, écouter et méditer la parole de Dieu personnellement pour acquérir, pour nourrir notre discernement. Premier point. Deuxième point. Lire, écouter et méditer la parole de Dieu dans l'église locale. Dans l'église locale. Lire, écouter, méditer la parole de Dieu personnellement dans l'église locale. Troisième point, lire, écouter, méditer la parole de Dieu avec l'Église universelle. Lire, écouter, méditer la parole de Dieu avec l'Église universelle. Alors le premier point, lire, écouter, méditer la parole de Dieu personnellement. Alors, on a tous une Bible et je vous invite donc à lire quelques passages en Josué, chapitre 1, verset 8. Donc, Josué, c'est après le livre du Deutéronome, avant les juges, il y a Josué. Et là, Josué, donc, il a pris la suite de Moïse pour conduire le peuple et il doit faire la conquête de la terre promise. Et Moïse, donc, c'est Dieu, après la mort de Moïse, donc, l'Éternel lui parle et lui dit ceci. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi et bon courage. Comment on se fortifie? Comment on a bon courage en agissant fidèlement? Et pour cela, Josué devait lire, méditer le jour, la nuit, la parole de Dieu. Premier livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 4. Là, il s'agit de Salomon, qui, lui, reçoit les recommandations de son père, le roi David, au moment de la passation de pouvoir. Un roi 2. Donc, après Samuel... Un roi de 1-4. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais sur le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. » Et au verset 3, « Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Sois un homme et commande. Être un homme, en observant les commandements de ton Dieu, en marchant dans ses voies. Fortifie-toi et sois un homme. On devient un homme en méditant, en se nourrissant et en appliquant la parole de Dieu. Est-ce que cela est réservé au seul responsable? Pas vraiment. On a le psaume 119 qui nous instruit de ce côté-là. C'est un célèbre psaume. C'est le plus long de la Bible, le psaume 119. Et donc on apprend des choses sur le psalmiste, au verset 130 par exemple, 119-130. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Un petit peu plus bas, 141. Je suis petit et méprisé, et je n'oublie pas tes ordonnances. Je suis petit et méprisé. On peut lire une strophe de 97 à 104 maintenant. Combien j'aime ta loi. Elle est tout l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois. C'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie du mensonge. Et cette nourriture, donc, est valable pour tout le peuple de Dieu. La lecture, la méditation, la récitation de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament aussi, le premier épître de Jean, chapitre 2, versets 18 et 20. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Tous les croyants de la Nouvelle Alliance ont reçu le Saint-Esprit pour leur permettre de comprendre et de se nourrir de la parole de Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Verset 24. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Et donc il s'agit bien du lait de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. L'apôtre Pierre nous demande de nous biberonner à la parole de Dieu. Lire, écouter, marcher, ruminer, étudier, chanter, réciter, mémoriser la parole de Dieu. Nous avons tous besoin d'elle, besoin de la lire, besoin de passer chaque jour du temps avec elle. On en a déjà parlé ce matin. À lire, à l'écouter, à l'entendre, à la sonder, à la comprendre, à nous en nourrir. Et c'est ainsi que nous allons développer le discernement quand les faux enseignements vont arriver à nos oreilles, mais on pourra dire, mais là, ça correspond pas avec ce que j'ai lu. Ça correspond pas avec ce que m'enseigne la parole de Dieu. Il y a un problème là. Lire, écouter, méditer la parole de Dieu personnellement est très important. Est-ce que cela est suffisant? Dans l'ancienne alliance, on voit que le grand roi Salomon s'est adressé à Dieu directement. En roi 3, 7, 9, je ne vais pas lire ce passage, mais c'est là où il demande la sagesse. Il se voit petit, il se voit faible, il se voit inexpérimenté devant cette grande tâche et il demande à Dieu le discernement pour pouvoir juger le peuple de Dieu. Et Dieu va répondre favorablement à sa demande. En ce qui concerne le psaume 119, on peut lire à la fin ensemble. Verset 169. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive, qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu répond à cette aspiration. Il a donné l'Église locale. Jésus a dit, vous savez, à Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et Paul a écrit dans l'épître à Timothée, l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, dans l'église, nous avons une puissante aide, un puissant don que Dieu fait avec son Église pour que le croyant, le chrétien, puisse se placer dans la vérité et tenir ferme. Dieu équipe ses églises locales. On y trouve des responsables qui ont la responsabilité, justement, avec, comme dit Tite 9, qui soit attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine, par la parole de Dieu, et de réfuter les contradicteurs. Une double mission qui est confiée aux responsables dans l'église locale. Et dans l'église également, le Saint-Esprit distribue des dons. Et l'un de ces dons est l'esprit de discernement. Des frères et des sœurs, qui seront équipés d'une sagesse hors du commun pour pouvoir discerner les esprits, pour pouvoir voir clair dans les situations les plus compliquées, les plus floues. Et cela est très utile et cela se trouve dans l'église locale. Dans l'église locale. La parole de Dieu est également, on le voit, adressée dans l'église locale. C'est dans l'église locale que les lettres étaient lues, étaient reçues, étaient lues, les lettres de Paul et les lettres des autres apôtres étaient lues dans les églises locales. C'était là où on allait entendre l'enseignement, le fondement des apôtres et des prophètes. 1 Thessaloniciens 5, 16, 22, on a un bel exemple. La vie de l'Église est normalement très riche. C'est un beau passage. Et voilà ce que l'apôtre écrit aux Églises, et c'est entendu dans l'Église. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit, cela ne peut se faire que dans l'Église locale. C'est là que l'on entendait les prophéties et la responsabilité de tous les croyants était d'examiner toute chose, de faire un tri, retenir ce qui est bon et s'abstenir du mal, rejeter ce qui n'est pas bon. Et donc, ça se fait bien sûr individuellement, mais ça se fait dans l'église locale, entre frères et sœurs, on examine les choses. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez? Et ainsi, l'église exerce le discernement. L'église locale exerce le discernement. La parole de Dieu est adressée dans l'église locale. Et l'Esprit de Dieu a un message spécifique à chaque église locale. Toutes les églises sont différentes. Quand on regarde les épîtres de Paul, elles étaient adressées à des églises locales et il ne parle pas de la même chose à toutes les églises. Il ne s'adresse pas aux Galates comme il s'adresse aux Corinthiens. Les églises avaient des besoins différents, elles étaient dans des régions différentes, dans un contexte culturel différent. Elles avaient un bagage culturel qui était différent et donc des besoins différents et chaque lettre était adressée pour répondre à des besoins spécifiques de chaque église locale. C'est encore plus marquant pour les églises de l'Apocalypse, les sept églises qui sont dans une même région géographique, dans la Turquie actuelle, des églises qui étaient placées toutes les unes à la suite des autres sur la route. Et donc là on voit que chaque église reçoit sa lettre parce qu'elle avait des besoins et on voit que les besoins correspondent aux problèmes qu'il y avait particulier dans une ville. Ici, il y avait un problème de persécution impériale. À Pergame, par exemple, c'était l'occultisme, c'était une ville qui était remplie d'occultisme et l'église avait affaire à face à ça. L'Odyssée était une ville très riche. Et donc, il y avait le problème pour elle de l'autosuffisance. Et donc, chaque église locale a ses besoins parce que chaque ville est différente. Figeac n'est pas comme Cahors. Et Cahors et Figeac sont différents de Casville. Il y a des contextes différents, des personnes différentes, une histoire différente pour la ville, des défis différents que les frères et sœurs ont à vivre chaque jour. C'est très différent de Casville, de Figeac. Et Cahors, j'y ai pas vécu, mais de ce que en rapportent Patrick et Brigitte, ils disent, c'est différent Figeac, c'est pas pareil. L'église locale, le Saint-Esprit a un message spécifique dans l'église locale, pour cette église locale-là. Alors venons à l'église, l'application, si la première application était de lire personnellement la Bible avec fidélité jour après jour, de la méditer, de la mémoriser, de la comprendre. L'application là, c'est de vivre, de participer au culte et participer ensemble au service du discernement. Et Dieu ajoute encore à cela. Il ajoute encore, lire, écouter, méditer la parole de Dieu avec l'église universelle. Alors l'Église universelle, ça désigne l'ensemble des croyants. Et là, on va lire le très beau texte de Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Alors, Éphésiens, c'est une lettre un peu générique. Hein. C'est une lettre circulaire. C'est une lettre qui n'était pas spécifique pour une église. On n'y trouve aucune salutation personnelle dedans. C'est une église qui était une lettre qui était destinée à être diffusée. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, l'appel qui vous a été adressé en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, dans l'église locale, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, et donc ça ne se vit que dans l'église locale. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11, voilà où je veux en venir. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, verset 14, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, le corps de Christ, l'ensemble des croyants. Alors les apôtres et les prophètes sont ceux dont l'enseignement est consigné dans le Nouveau Testament. Cela a été donné une fois pour toutes. Dieu a donné à l'Église les apôtres et les prophètes pour la rédaction de tout le Nouveau Testament. Mais Dieu donne encore aujourd'hui des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Si ce fondement donné par les apôtres ne changera jamais, le fondement des apôtres et des prophètes est donné une fois pour toutes, Dieu, Jésus, donne encore des hommes à son Église et les donne à son Église universelle. Depuis le temps des apôtres, l'Église a une histoire. Et dans cette histoire, il s'est passé des choses. Par exemple, il y a eu la constitution du canon. L'Église qui s'est chargée dans les premiers siècles à collecter les textes et à constituer, à regarder ce qui était inspiré du Saint-Esprit et à constituer la collection que nous avons maintenant. Et nous disons, voilà, nous avons la parole de Dieu. C'est un travail qui a été fait par les frères et les sœurs du passé. Et puis après, il y a eu tout l'établissement de la doctrine sur la Trinité. C'était un monument. Et vient après le salut par la foi seule, etc. Toute une série de doctrines qui ont été placées, fondées, approfondies au fur et à mesure des années. Et c'est un héritage. C'est très intéressant de voir l'histoire de l'Église. Ça nous renseigne sur nos frères et sœurs du passé. Ça nous montre, pour certains, comment dire, ils ont été des héros de la foi, hein, des modèles, des gens qui ont remporté de grandes victoires, qui ont été fidèles à la persécution. Et pour d'autres, ça nous instruit également sur les erreurs qu'ils ont faites, sur ce qu'il ne faut pas connaître, et on apprend de leurs expériences. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus s'étend à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Les chrétiens authentiques sont présents dans toutes les cultures, ou presque. Peut-être, sans doute, il doit en manquer encore. Ils sont présents dans les cultures, mais ils n'appartiennent pas à ces cultures. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Et Jésus donne des hommes qui vont avoir un ministère auprès de plusieurs églises locales. Bon, on a parlé de Tim Knickerbocker qui était là la semaine dernière. Il a parlé, il a eu un ministère, il s'est adressé à plusieurs églises en même temps. Et il y en a même qui ont des personnes que Dieu a données qui ont un impact sur tous les chrétiens. Quand on parle d'une personne comme un personnage comme Billy Graham, c'est un homme qui a eu un ministère exceptionnel, un don de Dieu pour son Église. Et on aurait tort de se passer de l'apport de l'Église universelle, de ces hommes que Dieu a donnés. Ils sont là pour nous aider dans le discernement. Ça se complique parce que les médias de l'Église universelle sont nombreux. Il y a les rencontres comme on a fait le 11 novembre ou la rencontre de l'Assemblée centrale où il y a plusieurs églises qui se rencontrent entre elles. C'est là où on voit l'Église universelle se déployer un peu. Et il y a des rencontres qui sont plus importantes encore. On a des livres et des milliers de livres disponibles en librairie. Là, ça se complique un peu. Et puis l'audiovisuel, ça foisonne de vidéos sur YouTube qui viennent des quatre coins de la planète. Et ça, c'est encore une dimension au-dessus. Et puis il y a les blogueurs, les podcasts, les médias de l'Église universelle sont nombreux aujourd'hui. Beaucoup de médias demandent beaucoup de discernement. Sur Internet, tout est un peu mélangé, tout est mis au niveau zéro. Et il y a le faux, du vrai qui sont là. Et il y a l'important de l'accessoire. Certes, il y a des bonnes choses qui méritent qu'on s'y attarde. Mais il y a énormément de choses qui n'ont pas un vrai intérêt. Elles ne s'adressent à d'autres personnes, à d'autres cultures, à d'autres églises, à d'autres contextes. Elles ne sont pas forcément pertinentes pour y passer du temps. Nous avons un site à l'église ici, mais il ne s'adresse pas aux chrétiens du Québec, ni aux chrétiens, aux autres chrétiens des églises de France. Il s'adresse aux Figeacois, pour que si les Figeacois veulent savoir ce qui se passe dans l'église, voilà, c'est une vitrine, voilà ce qui s'y passe, voilà ce qu'on y enseigne. Si quelqu'un veut venir rejoindre et chercher une église, voilà ce qui se passe dans cette église-là. Et c'est pratique également pour nous, pour retrouver les messages et les enseignements. Mais ça ne va pas chercher plus loin. Beaucoup de choses qui n'ont pas grand intérêt. Et beaucoup de choses également qui sont toxiques. De bonnes choses. Beaucoup de choses qui ne vont pas forcément mériter d'y investir du temps, et des choses qui sont dangereuses, qui sont toxiques également. Tout est côte à côte. Comment faire? Comment bien investir mon temps et mon argent? Moi, je reviens à mes trois points. La lecture de la Bible. Investissons dans la lecture quotidienne de la Bible. C'est notre premier point d'investissement. C'est là où on doit mettre notre temps. C'est là où on doit mettre nos capacités intellectuelles. C'est peut-être le soir, c'est peut-être le matin. Il y a des personnes qui sont du matin, il y a des personnes qui sont du soir. Le moment le plus propice de la journée pour se nourrir de la parole de Dieu. Ça, c'est le plus important. Et deuxièmement, la fréquentation des réunions. Vivre la vie d'église avec les autres, avec les frères et sœurs. Vivre l'église locale. C'est là également où l'on va bénéficier de l'enseignement. C'est là où l'on va avoir quelque chose qui est adapté et où on pourra vivre les échanges et les interactions de la vie chrétienne et où l'on pourra se mettre en garde les uns les autres, se veiller les uns sur les autres pour ne pas être emporté par un mauvais enseignement. Deuxièmement, donc, investir du temps dans les réunions de l'église locale. Et s'il reste du temps, c'est bien les rencontres entre les autres, avec les autres églises, avec les autres frères et sœurs, ça élargit notre horizon, ça nous fait sentir l'église universelle. C'est bien les livres, si vous avez du temps, lisez de bons livres, nourrissez-vous de lecture. Et puis, s'il reste encore un peu du temps, pourquoi pas écouter les podcasts, hein, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage. On se tient informé aussi des sujets de prière. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les besoins de la mission? Oubliez l'annonce. On aura pour la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine où on aura l'Église persécutée. Voilà. Là aussi, c'est un bon endroit pour investir également son argent. Conclusion. Tout est à vous. Nous dit la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 23. L'église aux Corinthiens n'était pas une église modèle, c'était pas une référence, c'était pas une église dont l'apôtre était particulièrement fier, mais il l'avait à cœur et ils avaient tout. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, 1 Corinthiens 3, 21, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à nous, mais pour rester attaché à la vérité, discerner l'erreur, il nous faut examiner toute chose, retenir ce qui est bon et rejeter le mal. Rejeter ce qui n'est pas bon. Et donc, par ordre de priorité, la lecture personnelle de la Bible, la fréquentation des réunions avec les frères et sœurs, et avec le temps qui reste, la lecture, et on a les moyens des médias, les podcasts, etc. Se tenir informé de ce qui se passe dans l'Église universelle. Alors pour terminer, je voudrais que l'on profite de ce qui se passe dans l'Église universelle. Je vous ai parlé de Billy Graham. Et là, on va essayer d'écouter, il est vécu très âgé, et d'écouter un de ses derniers enseignements, un de ses derniers messages qu'il adresse aux Églises.